Bonjour, à la une, deux invités aujourd'hui pour parler d'espéranto et de leur actualité ribéracoise de ce vendredi. Avec nous Jean-Claude Martin, bonjour,
bonjour.
Ravi de vous retrouver,
bonjour.
Responsable de l'antenne espérantiste de Ribérac, et Charles Carré, bonjour.
Bonjour.
Alors je vais dire professeur, mais vous n'aimez pas ce terme, car en espéranto le terme professeur n'existe pas. Donc vidento, si j'ai bien, si j'ai bien noté, à l'antenne de Ribérac pour les cours du mardi en début de soirée. Votre actualité, on va parler d'espéranto évidemment, et de ces cours du mardi notamment à Ribérac, mais votre actualité, c'est la parution d'une bande dessinée que l'on connaît en Périgord, qui a pour titre Le secret des bois de Lascaux de Thierry Félix et Philippe Bigoteau, et qui vient d'être traduite en espéranto et qui sera présentée ce vendredi en fin d'après-midi à la bibliothèque de Ribérac, où il y a d'ailleurs depuis quelques jours une exposition sur l'espéranto. Donc on va parler avec vous de tout cela, mais j'ai envie dans un premier temps de vous demander comment se porte l'espéranto. Jean-Claude Martin, nous nous étions déjà rencontrés sur l'antenne il y a quelques mois pour parler de l'espéranto et du groupe espéranto périgourdin. On a l'impression que ça bouge dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une impression de ma part ou sur le terrain, peut-être, le constatez-vous, de par les cours déjà du mardi soir à Ribérac?
Oui, moi je pense que ça bouge d'abord parce qu'il n'y a pas très longtemps que je me suis mis à l'espéranto, donc pour moi je trouve que ça bouge. Ça bouge parce que l'antenne de Ribérac est une antenne nouvelle qui existe depuis un mois et qui a déjà 12 participants sur des niveaux un peu différents. Donc on peut dire que l'espéranto en ribéracois bouge puisqu'il est nouvellement implanté et qu'il vit pas mal.
Il y avait une demande quand même.
Il y avait une demande, formulée ou pas, dès qu'on en a parlé ici à la radio ou bien autour du centre culturel, on a eu des velléités, mais les velléités d'approcher une chose comme l'espéranto ne suffisent pas. Il faut après vérifier si les gens sont réellement intéressés et puissent sur la durée persister dans leurs intentions. Et moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est fait si on organise un minimum l'accueil de ces personnes qui sont a priori intéressées.
D'où l'intérêt qu'il y ait régulièrement des animations, comme ce sera le cas pour ce vendredi, notamment avec la présentation de cette bande dessinée. Et évidemment, on va en reparler dans quelques instants. Juste un mot sur l'espéranto. C'est une langue qui existe depuis la fin du 19e siècle, hein, à peu près.
Depuis, oui, 1880, quelque chose comme ça.
87
précisément. Donc c'est un médecin polonais qui a inventé cette langue alors qu'il était très jeune, hein, et qui vivait dans une communauté très proche de la frontière russe. Dans un village polonais très proche de la frontière russe, où il vivait dans une sorte de communauté hébreu, juive, et qui où étaient parlées beaucoup de langues, l'allemand, le russe, le polonais, le yiddish, et puis donc personne ne s'entendait bien, et lui, à 15 ans, il a eu l'idée d'inventer cette langue, et il l'a inventé deux fois, parce que son père a, je crois, détruit toutes ses notes, il a recommencé, il a donc inventé l'espéranto, qu'il a un peu amélioré au fur et à mesure après.
Donc c'est pour faciliter les discussions et la communication entre les peuples qui ont une langue différente à l'origine.
Voilà, et donc c'est l'idée, la idéo, on appelle ça en espéranto, c'est la philosophie, c'est que il n'y a pas de langue dominante, la langue espéranto n'appartient pas à un pays, à un État, et donc elle est universelle, et donc c'est cette idée que Zamenhof, l'auteur, prétendait promouvoir.
Est-ce que c'est une langue qui peut s'imposer aujourd'hui, alors que l'anglais, par contre, est prédominant après que ce fut le français?
Je vais répondre, Charles.
Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu le ministre du Travail parler anglais?
Non,
pas
non.
Ça vaut
comme un canard.
Ça vaut le coup. Beaucoup de personnes ont appris l'anglais.
Parce qu'on l'apprend déjà à l'école.
À l'école. Mmh. Et le résultat n'est pas probant. Mmh. Donc, certes, l'anglais est parlé dans beaucoup de pays. Quant à devenir véritablement une langue internationale, j'ai des doutes parce que ça n'en prend pas le chemin. Mmh. D'autre part, le problème de la langue, c'est un problème aussi économique. Et vous vous rendez bien compte que les dépenses qui sont faites pour apprendre les langues étrangères en France, et dans les autres pays c'est pareil, ce sont des dépenses absolument faramineuses. Le nombre de professeurs qu'il faut payer, les heures que ça demande, les enfants qui doivent y passer un temps extrêmement important, puisqu'il y a quand même beaucoup d'heures de cours, plus le travail quand même à la maison. Donc c'est très difficile. L'espéranto est une réponse à ça, parce que si on passe beaucoup moins de temps pour apprendre l'espéranto, on a des résultats bien supérieurs. Et ça marche dans tous les pays. Et dans tous les pays, il y a des espérantistes. Alors, vous posiez tout à l'heure une question. Est-ce que ça bouge? Alors, évidemment, si on regarde sur Ribérac, ça bouge un petit peu, puisqu'il y a un cours qui s'ouvre.
C'est donc,
très bien. Et puis, si on regarde en France, bon, ça bouge pas des masses. Hein. Moi, je trouve que c'est bon.
C'est marginalisé?
Bon, oui, oui. Les hommes politiques ne s'intéressent pas tellement à l'espéranto. Hein. C'est pas vraiment pas leur problème. La fraternité universelle, c'est pas leur... L'euro, oui, l'argent, ça on fait une monnaie, oui. Mais donner une langue pour les 27 pays de l'Europe, là, ils n'en sont pas capables. Mais si on regarde sur le plan mondial, alors là, c'est très différent. À Heifei, je prononce sans doute pas très bien, c'est une ville chinoise qui est à la hauteur de Shanghai, un peu à l'ouest. La doyenne de la faculté de lettres de Heifei est une espérantiste chevronnée. Et en Chine, se développe effectivement l'espéranto beaucoup plus qu'en France.
Pour quelle raison?
Alors, pour quelle raison? Ben parce que eux-mêmes ont un problème de langue énorme, puisque en Chine, il y a environ 60 langues différentes, non compris les dialectes. Donc, ils ont besoin, effectivement, d'une langue commune. Alors, ils ont le mandarin.
Oui. Qui est majoritaire, le mandarin.
Oui.
Mais je pense que faut déjà être érudit pour parler le mandarin. Et en Chine, j'ai pas l'impression que tout le monde parle le mandarin.
Malheureusement.
Oui. Donc l'espéranto, ça va se développer par les pays d'Asie. Le pays le plus espérantisé, entre guillemets, c'est pour l'instant, à mon avis, c'est le Japon. Vous voyez, mais eux, peut-être, ont déjà une longueur d'avance parce qu'ils ont compris qu'avec la bombe atomique, ils avaient payé. Alors, peut-être que ça leur a donné des idées de fraternité.
Mais à l'heure où aujourd'hui, notamment en France, les langues régionales sont en train de renaître, est-ce qu'en plus, apprendre une langue supplémentaire, en l'occurrence l'espéranto, c'est pas compliquer encore l'existence des Françaises et des Français?
Alors, les langues minoritaires, comme le nom l'indique, ce sont des langues qui ne sont pas très, qui sont pas énormément parlées. Mais les gens sont attachés à ces langues-là. Mais pourquoi pas? L'espéranto n'a pas pour vocation de faire disparaître telle ou telle langue. L'espéranto, c'est un lien. Donc les efforts que demande l'espéranto pour l'apprendre sont tellement minimes par rapport aux bénéfices que ça peut apporter, il est évident que l'espéranto devrait normalement se développer. C'est évident.
Mais en ce qui concerne les langues minoritaires, là, les élus s'impliquent, puisque de nombreuses communes déjà ont deux panneaux à l'entrée et sortie des villes avec le nom donc de leur commune en français et en occitan.
Oui, oui.
Donc là par contre, ils s'impliquent. Mais l'espéranto, non, selon vos propos.
Oui, oui, mais c'est... je voudrais pas être méchant, mais enfin, il y a un petit côté démagogique.
Électoraliste, certainement. Hein. Ouais.
Bon, on racle partout pour avoir des voix. Hein. Mm. Bon, ils ont raison, hein, c'est bien, bravo. moi, je suis allé à Vienne. Je vous assure que... Oui. Y a pas une seule indication de rue ou de quoi que ce soit autre qu'en allemand. Bon, comme je ne parle pas allemand, c'était pas très pratique.
Mais si vous aviez...
S'ils avaient mis en espéranto, ce serait plus pratique, effectivement.
Est-ce que c'est une langue facile à apprendre? Est-ce que les règles de grand-mère sont moins compliquées qu'en français ou dans d'autres langues?
Bon, aucune langue n'est facile à apprendre, parce que quand on n'est pas habitué à parler
quotidien,
ça demande des efforts. Enfin, ça vient pas comme ça par
pour
un
ça
coup
qu'on
de
va
baguette
à l'école.
Magique. Hein. Mais la difficulté de l'espéranto comparée à n'importe quelle autre langue nationale, c'est un monde.
C'est pas comparable, pas du tout. En fait, la grammaire, puisque vous avez parlé de la grammaire, est extrêmement simple par rapport au français. Elle est, je ne sais pas combien de fois plus simple, 50 fois plus simple. Et par rapport à l'anglais ou l'espagnol, elle est beaucoup, beaucoup plus simple. Ça, c'est certain. C'est une langue qu'on appelle agglutinante, donc on se sert des racines. Et après, il y a les affixes, c'est-à-dire les préfixes et les suffixes. Et on compose les mots comme ça. C'est pourquoi, bien sûr qu'elle n'est pas facile, comme dit Charles, parce qu'aucune langue n'est facile, parce qu'il faut apprendre du vocabulaire, donc il faut travailler un minimum, sinon ça ne peut pas venir tout seul. Mais une fois qu'on a repéré les racines, après on retrouve les mots, les autres mots, ou on les invente éventuellement, parce qu'on sait que la racine est là, et donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile. C'est langue agglutinante, et c'est pourquoi des gens comme les Asiatiques, ce qu'il faut dire, c'est que 70% des racines, au moins, sont latines, ce qui nous avantage, nous, les Européens, en tout cas les Européens du Sud. Cette histoire d'agglutinante, de langue agglutinante, les Asiatiques s'y retrouvent parce que, même si c'est pas leur alphabet, ils peuvent fonctionner comme
c'est
ça.
C'est leur fonctionnement.
C'est leur fonctionnement.
Ce qui fait que cette langue peut franchement être universelle comme l'avait souhaité son créateur.
Tout à fait.
Les Japonais et les Chinois le prouvent.
Oui, parce qu'ils n'ont pas la même écriture que nous, ils n'ont pas les mêmes mots, donc forcément.
Rapidement, je vais vous faire une anecdote, vous raconter une anecdote. Quand je suis venu, c'était il y a environ une année, je pense.
Oui, à peu près. Ouais.
Chaque année, il y a un congrès universel. Et cette année, le congrès universel s'est déroulé en juillet à Cuba. Et d'un point de vue touristique, j'avais envie d'aller à Cuba. Donc je me suis dit, pourquoi pas joindre le congrès et le...
L'utile à l'agréable.
Voilà, l'utile et l'agréable, oui. Et immédiatement, je me suis dit, mais bon, c'est idiot. Moi, j'ai tout juste 5 mois, 6 mois d'études d'espéranto. Je ne vais rien comprendre au congrès. Donc je me suis retourné vers les amis espérantistes plus chevronnés à Périgueux ou à Trélissac, et ils m'ont dit « Mais si, au contraire, il faut aller au congrès. » Et ainsi, et donc on avait rencontré Charles à cette époque-là, il nous avait encouragé aussi d'aller au congrès, il nous a dit « Ainsi, vous aurez une accélération de votre apprentissage énorme, et puis ça vous fera une échéance intéressante pour progresser. » Donc on est allé au congrès courageusement en pensant qu'on n'allait rien comprendre. Et donc immersion totale, hein, 9h du matin jusqu'à 18h et reprise pour les soirées de 21h à 24h. Immersion totale en espéranto. Je disais que...
Donc ça s'est bien passé.
On a compris à peu près, ça a été Il y a eu des moments difficiles pour parler, évidemment, parce qu'on n'avait pas beaucoup de vocabulaire en réserve. Mais on a été accueillis avec l'esprit espéranto. Pas de jugement, des gens agréables qui nous ont s'asseoir un instant pour parler avec nous, même si on ne savait pas dire grand-chose. C'était très intéressant. Voilà. Et puis on a fait 15 jours de tourisme à Cuba. Il a fallu reparler espagnol. Mais...
Qu'est-ce qui motive des élèves, par exemple, donc des Ribéracoises et Ribéracois, à apprendre aujourd'hui l'espéranto et à vous rejoindre chaque mardi en début de soirée pour ces cours?
Ben, je pense que les motivations sont un peu diverses quand même. Hein. Il y a par exemple un père et son fils, donc on est content parce qu'il y a un jeune, c'est bien, il a 15 ans. Il n'est pas très à l'aise à l'école, mais il est content de venir avec son père. Son père nous dit qu'il est très content d'aligner 3-4 phrases en rentrant à la maison. Ça n'est pas de sa mère. Et puis le père et le fils sont là. Et le père est artisan sur la région. Et il est aussi content de se replonger ainsi dans des études qu'il n'a pas non plus trouvées très satisfaisantes. Et puis il y a des dames un peu plus âgées quand même, hein, qui viennent là. Sans doute avec plus de disponibilité. Il y a un monsieur justement qui a bien 70 ans, qui est, je ne sais pas si on dit occitanien, enfin
occitaniste.
Il est occitaniste, voilà. Qui est, et ben lui, c'est le goût des langues,
visible,
la curiosité de la langue. Il avait déjà un petit peu fait de l'espéranto tout seul, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autodidactes. Charles est un bel exemple d'autodidacte. Et c'est pour ça que c'est difficile de savoir exactement, parce que
le nombre
dans le monde, parce qu'il y a plein de gens, et au congrès j'ai rencontré des gens qui apprenaient tout seuls aujourd'hui sur internet. Je me rappelle d'un équatorien qui était tout seul représentant de son pays, et lui il prenait pas de cours, il travaillait comme ça tout seul.
Ce qui prouve qu'on peut apprendre rien qu'avec un livre, presque un livre d'école.
Ça, c'est Charles qui va vous dire ça mieux que moi. Là.
Oui, il est évident que quand on prend un manuel d'espéranto, on y trouve tout de suite tous les renseignements qu'il faut pour...
Toutes les bases.
Toutes les bases. C'est pas difficile de l'apprendre tout seul, hein. C'est vraiment
simple.
On dirait, on peut aussi apprendre le grec tout seul,
hein,
avec
c'est
une méthode assimile. C'est amusant. Quand on dit autodidacte tout seul, je me méfie un petit peu. Est-ce qu'on est vraiment toujours tout seul à partir du moment où on a un manuel?
Il y a des outils,
seul,
c'est sûr.
Mais bon, l'apprentissage, la motivation, vous parliez de la motivation des gens.
Des élèves.
Bon, en général, il faut reconnaître qu'en général, c'est l'idée de l'espérantisme, c'est-à-dire la fraternité universelle, le rapprochement des peuples.
Les rencontres, la communication.
Voilà. Mmh. Alors il y en a, c'est éventuellement la correspondance qui leur apporte des timbres pour leur collection, des choses comme ça. Hein. Mmh. Et puis, j'ai l'exemple là d'un espérantiste qui témoigne qu'il a appris l'espéranto à cause de la philatélie. Et il était tout content d'enrichir sa collection.
Échanger.
Et au fur et à mesure qu'il a appris l'espéranto, il a découvert que c'était une merveille. Il a vendu sa collection de timbres pour pouvoir aller à un congrès espérantiste. C'est ça. Au départ, bon, c'est sûr que si on apprend une langue, c'est pour aller vers les autres. C'est pour aller vers ceux qui parlent cette langue-là, éventuellement, et qui ne parlent pas la nôtre.
Mais au quotidien, ce n'est pas forcément utile. Sauf si on va en voyage, peut-être, chez des espérantistes.
Ah oui,
au quotidien, en France, aujourd'hui, oui, on peut dire ça. Mais bon, il y a aussi une ouverture d'esprit, il y a aussi une curiosité.
Des touristes, peut-être, quand on part en vacances. Si on va sur la Côte d'Azur ou en Bretagne, on peut rencontrer... des étrangers qui parlent éventuellement espéranto. Et donc là, ça peut ouvrir
bien sûr,
un dialogue et des rencontres intéressantes.
Mais l'intérêt de l'espéranto, c'est aussi de rencontrer les gens par écrit, soit en correspondance, soit dans les revues, soit dans les livres. Il y a toute une richesse là à acquérir. Et la rencontre avec les gens, c'est quand même facilité avec les espérantistes. Parce que l'Union espérantiste mondiale édite chaque année un petit livre qu'on appelle le Jahr Libro, le livre de l'année, avec des adresses d'espérantistes. Bon, ce sont des gens qui ont donné leur adresse pour être délégués espéranto, avec l'adresse, le téléphone, bon. Et on peut les contacter. Donc, si vous voulez aller au Chili, vous prenez le Jahr Libro, vous avez par ville, hein, en ordre alphabétique, au Chili, vous avez des délégués comme ça. Vous leur téléphonez, vous écrivez, et vous avez un contact. Et les espérantistes sont organisés.
C'est une communauté.
Et ben, il y a un accueil au moins. Il y a donc une garantie de pouvoir être accueilli dans, dans chaque pays. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles du Chili par hasard, parce que José Antonio Vergara, qui est le délégué du Chili, est venu à Périgueux il y a 2 ans. Le groupe ici l'a reçu. Et donc, il y a des échanges comme ça. On a reçu des Suisses. On a reçu un couple cet été qui est, la dame était suisse et le monsieur hongrois, et donc ils se sont rencontrés par l'espéranto, et entre eux ils parlent espéranto parce que le hongrois c'est quand même pas facile ça, hein. Donc voilà, la dame parle français parce que les Suisses près de la Chaux-de-Fonds je crois, et c'est assez étonnant, il y a des couples comme ça qui...
Pourquoi pas ouais. Vous parliez Charles Carré d'édition, donc ça va me faire la transition pour parler de ce livre, donc de cette bande dessinée qui est l'actualité pour vous deux entre autres, hein, Jean-Claude Martin et Charles Carré, nos invités aujourd'hui. La parution et traduction de cette bande dessinée de Thierry Félix et Philippe Bigoteau, Le secret des bois de Lascaux, qui sera présenté ce vendredi et que l'on pourra acquérir évidemment à Ribérac, notamment à la bibliothèque où il y a actuellement une exposition sur l'espéranto. Pour quelle raison avoir décidé de traduire cette bande dessinée en espéranto ?
Je crois que le groupe espérantiste périgourdin est attaché à ses racines. Donc la grotte de Lascaux, c'est quand même un monument culturel dans la région. Donc il y a une antenne à Sarlat, il y a une antenne au Bugue, il y a une antenne à Bergerac. Et il y a une antenne à Périgueux, Trélissac. Donc tous ces gens-là se sont attelés à cette tâche parce que ça a été quand même difficile. Ils croyaient pas que ça allait être si difficile, parce que la bande dessinée c'est des textes quand même avec certaines particularités. Il faut tenir dans un espace réduit, et donc ils ont passer du temps pour traduire pour rester fidèle justement aux auteurs, et donc en restant en contact et en accord avec les auteurs. Et donc je trouve que c'est bien que La Secreto de la Arbaro de Lascaux soit paru enfin, quoi, et donc soit en vente ici, soit en vente et en circulation dans le Ribéracois et en Dordogne, parce qu'on joint là la culture de notre région et l'espéranto. Donc on espère bien que que cette bande dessinée va être vendue en Pologne, au Japon ou en Chine ou au Brésil, où il y a beaucoup beaucoup d'espérantistes.
Et en France, où peut-on la trouver?
Ah, en France, on peut la trouver.
À Ribérac, pourquoi pas, mais
à Ribérac, bon, on peut la trouver. Donc les auteurs ont créé leur maison, les maisons d'édition pour. Enfin, ils ont l'habitude de travailler avec cette façon. Mais on la trouve dans les bibliothèques. Aujourd'hui, elle est en espéranto et en français à Ribérac et à Périgueux aussi. Voilà.
On pourra se la procurer ce vendredi, bien sûr,
à la bibliothèque
de Ribérac. Où il y a, je le disais, une exposition autour de l'espéranto. Comment se présente cette expo ? Il s'agit de panneaux.
Et il y aura trois demi-journées d'initiation à la langue, avec un présentation d'un petit logiciel informatique. Donc ça c'est intéressant pour les on a visé un public jeune, donc il y aura une séance le mercredi 15 en particulier pour les plus jeunes. Donc sinon on sera là pour accueillir les gens et on pourra faire le lien avec le cours si les gens sont plus intéressés pour en savoir un peu plus.
Donc le 15 décembre, dehors donc du cours traditionnel du mardi soir, là.
Tout à fait. Alors l'exposition est ouverte dans les horaires de la bibliothèque. Hein, il n'y a pas de souci. Il y aura jusqu'au 18 décembre. Mm-hmm. Il y aura 3 séances donc d'initiation à la langue le samedi prochain, c'est le 4, je crois. Et puis mercredi 15.
Samedi 4, oui.
Oui, mercredi 15 et le samedi d'après.
Le 18.
Voilà, le
18
dernier
décembre.
Jour, le dernier jour. Et puis donc la signature, hein, puisqu'ils viennent aussi
les
pour dédicacer. Et c'est bien, la dédicace des auteurs de bande dessinée, c'est bien, parce qu'il y a un texte, évidemment, et il y a un dessin tout le temps. Et les deux. Donc c'est très agréable et très intéressant. Voilà, et puis donc la bibliothèque nous ouvre ses portes pendant 3 semaines.
Bibliothèque là, de Ribérac.
De Ribérac,
ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Charles.
Je voudrais quand même insister sur le fait que l'ASCO, c'est connu mondialement, c'est quand même le passé
le patrimoine
de l'humanité.
Mondial.
Et donc, que ce soit traduit en espéranto, moi ça me ravit parce que c'est vraiment le sens même de l'espéranto, cette ouverture vers le monde. Et l'ASCO, c'est quand même une très très grande merveille. Donc ça mérite effectivement d'être traduit en espéranto.
Et partout dans le monde, on pourra connaître l'histoire de ce lieu périgourdin bien connu.
Ouais.
Quelques mots juste pour finir en ce qui concerne les cours du mardi. C'est à quelle heure et à quel endroit ?
Alors, je vais dire ça. Donc, c'est à 18h, de 18h à 20h, et c'est à l'ancien palais de justice. Donc,
Ribérac. Le centre de Ribérac. Nous sommes en cours d'année, mais on peut quand même vous rejoindre pour ces cours, il n'y a pas de problème.
C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, Charles s'applique à accueillir tout le monde dans de bonnes conditions et complètement débutants. Il y a une dame qui m'a appelé hier parce qu'elle est passée à la bibliothèque, elle a vu les panneaux et elle m'a dit, est-ce qu'on peut, moi ça m'intéresse, je suis curieuse de ça, est-ce que je peux venir, et donc je l'ai invitée, elle va venir la semaine prochaine pour voir si ça lui convient. Puis elle prendra ses cours à partir de janvier, je pense. Elle est complètement débutante, voilà.
Donc, oui, il n'y a absolument aucun problème. On peut commencer à n'importe quel moment. Moi je m'adapte aux élèves qui viennent, et puis on arrive toujours à se débrouiller. D'autant plus que j'ai le renfort d'un ami espérantiste qui va venir le mardi pour animer aussi avec moi le cours d'espéranto, ce qui nous permettra de faire travailler en même temps les débutants, ceux qui ont déjà qui sont déjà un petit peu espérantistes,
donc les confirmés, on va
et tous ensemble, c'est très intéressant. Oui, il n'y a pas à faire de différence véritablement de niveau.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Un numéro de téléphone peut-être pour celles et ceux qui souhaitent vous joindre pour en savoir davantage, soit sur les cours du mardi, soit sur les rendez-vous éventuellement exceptionnels à la bibliothèque pour apprendre ou découvrir en tout cas l'espéranto.
Oui, donc c'est 05 53 91 82 93. Voilà.
Merci Jean-Claude Martin, Charles Carré. Donc les secrets du bois de Lascaux en espéranto, une présentation ce vendredi en fin d'après-midi à la bibliothèque de Ribérac, où en plus vous pourrez découvrir cette exposition. Merci à tous les deux, à bientôt.
Merci, à vous.